Radio Kapi.
Le journal Pascal Masserica.
Au sommaire de cette édition d'information, les autorités de Makala plaident pour le désengorgement de cette prison de Kinshasa où les victimes de l'injustice meurent d'étouffement. La fondation Bill Clinton pour la paix fustige le silence du gouvernement central. Entretien hier à Goma entre la chef de la MONUSCO Bintou Keïta et le gouverneur du Nord Kivu. Au menu, la collaboration entre la mission onusienne et les services de sécurité du pays, la mise en œuvre du communiqué de Luanda et la sécurisation de l'espace aérien de la ville. Notre invité, c'est le président du parti politique dénommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Corneille Nangaa affirme qu'il présentera en décembre prochain des candidats aux élections, y compris la présidentielle. Madame, messieurs, bonsoir. Justice pour commencer votre journal. Les damnés de la justice meurent d'étouffement à la prison centrale de Makala ici à Kinshasa, surpeuplée par les magistrats. Les autorités pénitentiaires plaident pour le désengorgement drastique de cette prison, tandis que la fondation Bill Clinton pour la paix dénombre de janvier à février 2023 70 morts et interpelle le gouvernement central sur son silence. Jusque ce mardi, les statistiques révèlent 10 790 détenus, dont 25% seulement sont des condamnés pour une capacité d'accueil de 1 500. Et ce sont les magistrats qui sont accusés de surpeuplement en dépit de l'approvisionnement régulier en nourriture. Un reportage de Jeff Ngoy.
Rien presque ne manque aux pensionnaires de Makala. On n'assiste plus à la rupture des stocks depuis plus d'une année, selon une magasinière et nutritionniste qui nous fait visiter trois dépôts où sont entreposés des sacs de riz, des haricots, farine de maïs, de manioc, soja, huile de palme ou végétale, sucre, tomate en boîte. Elle nous dit que les prisonniers ont trois jours de repas de foufou et trois autres pour les haricots et un jour pour le riz avec du poulet ou du poisson chinchard. Chaque matin, les mineurs et les femmes prennent la bouillie du soja. Mais ces efforts sont affaiblis par des magistrats véreux, nous lance un cri d'âme. Et la fondation Bill Clinton pour la paix d'en réclamer des sanctions, son président Emmanuel Kolé.
Mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire les procédures judiciaires sont trop lentes et très lentes. Donc il faudrait mettre la pression sur le magistrat, surtout certains magistrats disciplinaires qui détiennent les dossiers sans fesser à la cour et tribunaux. Si ils ne respectent pas les délais de jugement, comment voyez-vous donner l'ordre à la cour d'appel, cour et tribunaux?
Sur 11 pavillons, un est en réfection depuis plus d'une année, dont les travaux ne sont toujours pas achevés. 1000 personnes passent nuit à même le sol, d'autres debout ou en position dite ciseaux d'un seul côté. 800 dorment superposés dans une salle de 4 mètres carrés.
La chef de la MONUSCO a échangé hier avec le gouverneur du Nord Kivu. Au menu, la collaboration entre la mission onusienne et les services de sécurité du pays, la mise en œuvre du communiqué de Luanda du 23 novembre dernier et la sécurisation de l'espace aérien de la ville de Goma. Madame Bintou Keïta est au micro de Jules Ngalamona.
On a aussi parlé de la mise en œuvre du communiqué de Luanda du 23 novembre. Comment ça prendrait forme? Et quels seraient les rôles respectifs des uns et des autres par rapport à cela. Nous avons aussi discuté des difficultés de ce qui se passe dans l'espace aérien maintenant avec les accidents. Nous, on pense que c'est même volontaire, hein, des tirs sur les aéronefs. Et là, très clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer et régler parce qu'on ne peut pas avoir des routes qui sont bloquées et aussi avoir l'espace aérien qui devient une source de risque majeur pour ceux qui prennent les vols. Mais en dépit des difficultés, je pense que on s'est bien compris avec le gouverneur et son équipe pour collaborer, coopérer, pour planifier, pour qu'on obtienne des résultats qui permettent d'arrêter la souffrance des populations.
Nord Kivu encore et en plus bref, une accalmie relative s'observe ce mardi sur les lignes de front à Luhunga et à Malehe, près de la cité de Sake et dans la cité minière de Rubaya, où les forces d'autodéfense locales, les Nyatura, ont chassé hier les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Notez cependant que la cité de Mweso, située à 15 km de Kichanga dans le groupement de Bachalimonkoto, est passée hier soir sous occupation rebelle. Dans le bas Ouélé. Des hommes armés ont fait incursion tôt ce matin dans la localité de Banda, chefferie de Mopoi, dans le territoire d'Ango, situé à plus de 800 km au nord de la ville de Kisangani. Les assaillants ont emporté des enfants et pillé plusieurs biens de la population avant de se retirer dans la savane. L'administrateur du territoire redoute des répercussions néfastes sur l'enrôlement des électeurs. Pour en parler, retrouvons à Kisangani Jacques Mukonkole.
À Banda, ces hommes armés supposés éléments de la SELECA, la rébellion centrafricaine, ils sont entrés vers 3h du matin. Ils ont pillé quelques maisons et des boutiques, mais auparavant, ils ont opéré dans deux villages voisins. Au total, ils ont kidnappé 25 enfants, dont l'âge varie entre 10 et 18 ans, dans les trois villages, comme en témoigne Théophile Zakbina, président de la société civile locale.
Seulement ici au centre Banda, ça a plutôt commencé à 22 km de Banda, village Nambagou et Zamos, là où ils ont pas mal enlevé les affaires suivies des pillages.
Au regard de l'instabilité de la situation sécuritaire dans cette entité, l'administrateur du territoire d'Ango redoute des répercussions sur le processus d'enrôlement, raison pour laquelle, déclare Marcelin Lekabissia, le matériel d'enrôlement n'est pas encore déployé dans tous les centres de l'intérieur.
Nécessairement augmenter le nombre de FADC dans ce milieu. Sinon, en tout cas, ça sera terrible. Raison pour laquelle les matériels, nous avons discuté avec les services de l'ANR FADC, qu'on puisse stationner d'abord les matériels à Banda Centre en attendant la réaction de notre hiérarchie.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et au Maniema, le candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain, RDC, Augustin Matata Ponyo, s'est enrôlé ce mardi au centre d'inscription d'excellence de Kindu. Il regrette cependant l'interdiction faite à ses sympathisants de l'accompagner alors que les candidats de l'UDPS l'ont fait sans restriction. Il s'est confié à Florence Kizalunga.
C'est regrettable qu'un candidat président que je suis puisse être interdit de se faire enrôler, accompagné de ses sympathisants. Non seulement le maire de la ville a signé un document qui a été abrogé par la justice, mais comme M. Matata, c'est une cible qu'il faut absolument abattre, bon voilà, le gouverneur s'est précipité de prendre un autre document contre l'avis du premier président du tribunal de Kindu. Vous avez vu vous-même le déploiement excessif de policiers, de membres du cabinet du gouverneur, comme si M. Matata était un non-congolais, comme s'il était ennemi de la République. Je pense que si on clame l'état de droit dans ce pays, on doit laisser les droits humains et des citoyens s'exprimer. Et pour préserver les vies humaines de ceux qui pouvaient être tués à cette occasion, parce que les instructions sont telles qu'il fallait tuer les gens et montrer que M. Matata, c'est quelqu'un qui a versé du sang. Nous avons voulu protéger la vie des citoyens et nous enrôler pacifiquement. Le plus important, c'est de nous faire enrôler.
Revenons un instant au Nord Kivu où le président du Parlement des jeunes de Ringeti salue l'engouement observé lors de l'enrôlement des électeurs dans cette région du territoire de Beni. Fabrice Muhangi s'inquiète cependant de la lenteur dans l'opération d'enrôlement et du nombre réduit des machines déployées. Il a été joint par Marc Marofimbo.
Les activités de l'enrôlement se passent bien. Nous avons au moins 5 centres à Ringeti. Comme la population était déjà sensibilisée, la moyenne c'est 45 personnes par centre. Mais je ne pense pas que pendant un mois on va écouler la population de Ringeti. Chaque centre on peut trouver au moins 120 personnes. Ils sont en train d'écouler au moins 45 par jour. Et c'est la CENI qui cause au moins des lenteurs parce que si la machine était souple, on peut arriver à rouler au moins 100 personnes par jour, mais ça ne tient pas parce que la machine travaille avec beaucoup de lenteurs. Bon, la population est déjà préparée. Chaque centre a au moins une machine. Si on trouvait au moins deux machines par centre, cela pourrait au moins arriver à 90 personnes donc par jour. Mais la population est vraiment sensibilisée pour les activités d'enrôlement.
J'ajoute que l'équipe technique de la CENI assure que la situation va s'améliorer bientôt, ce qui permettra à toute la population de s'enrôler. Partons maintenant pour le Lomami, où le gouvernement provincial vient de prendre un train de mesures pour lutter contre l'insécurité. C'est notamment l'enregistrement de tous les civils, des détenteurs d'armes à feu, l'interdiction à la population de porter les tenues semblables à celles des FARDC. D'autres précisions avec vous, Esther Ndalafina.
Dans cette décision rendue publique ce lundi, le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et sécurité, demande à tous les détenteurs d'armes à se faire enregistrer immédiatement à l'Agence nationale des renseignements, ANR en sigle. Cette décision concerne ceux qui ont des documents leur autorisant le port d'armes à feu et ceux qui ne détiennent aucun document du ministère de l'Intérieur. À cet effet, le ministre invite également les fabricants locaux d'armes à feu dans la région à se faire identifier auprès de l'ANR. Une autre décision prise par Eli Mutombo est l'interdiction formelle à la population de porter des tenues semblables à celles des militaires. Le ministre provincial de l'Intérieur affirme avoir pris ces décisions pour faire face aux multiples cas de criminalité observés ces derniers jours dans la ville de Cabinda et ses environs. Rappelons que la société civile a depuis quelques jours dénoncé la recrudescence des cas d'incendie d'origine criminelle des maisons de certains habitants vivant dans la périphérie de la ville de Cabinda par des personnes non autrement identifiées. Les acteurs de la société civile demandent au gouvernement provincial d'appuyer la police afin qu'elle multiplie les patrouilles nocturnes pour protéger la population ainsi que ses biens.
Merci Esther Ndalafina pour ces précisions. Faisons maintenant un détour par la province du Tanganyika où on en sait un peu plus sur le meurtre du pasteur Salomo Katele et son épouse dans le territoire de Moba. Quatre suspects ont été arrêtés le week-end dernier. L'administrateur du territoire de Moba annonce que le dossier est en instruction en ce moment au parquet de Moba. Akalemi, la correspondance de Paul Emunanga.
Parmi les présumés auteurs du meurtre du pasteur et de sa femme, il y a deux hommes et deux femmes. D'après des sources à Moba, c'est la milice dénommée Élément qui a arrêté ces personnes après avoir mené des enquêtes et les a remis au FRDC. L'administrateur du territoire souligne que ces suspects sont amenés au parquet de Moba. Victor Canfoy.
Nous étions en train de chercher comment atteindre les malfrats. Effectivement, jusque-là, il y a quelques individus qui ont été pris. Ces gens-là ont été conduits, ils sont à présent au parquet. Les présumés ont affirmé que ce sont eux qui ont opéré. Ils ont pris le pasteur et son épouse, ils sont allés avec eux le long d'une rivière, c'est là où ils ont tué et bien entendu ils ont même enlevé certains organes. Les gens avec qui ils opèrent, qui n'ont pas été contents de ce qu'ils ont fait, ce sont eux qui les ont livrés à la main de la justice.
Pour rappel, en début de la semaine passée, le pasteur et sa femme ont été enlevés par des inconnus au champ où ils se trouvaient pendant la nuit. Leurs corps sans vie ont été découverts jeudi dernier au bord de la rivière Luvunzu, village Mouseba, groupement Mwindi dans les territoires de Moba. L'administrateur du territoire annonce que les présumés auteurs du meurtre seront transférés à Kalemi. Kalemi, Paul Emunanga, Radio Okapi.
Et dans la province du Kwilu, les enseignants de l'école primaire Molende, de l'Institut Molende 1 et de l'Institut Sabiti réclament le paiement de 2 mois d'arriérés de leur salaire qui sont bloqués à Ecobank. C'est confié en Radio Okapi aujourd'hui. Ils demandent aux dirigeants de l'enseignement primaire, secondaire et technique de régler ce litige au plus vite. À Bandunduville, Irène Boma.
Ils sont au total 49 enseignants des 3 écoles publiques basées à Bandunduville, à savoir l'EPE Molende, l'Institut Molende D de la 37e KDC et l'Institut Sabiti de la communauté musulmane qui acquisent l'impayement de leur salaire de 2 mois, dont celui de janvier et de février 2023. Devant Radio Okapi, ces professionnels de la CRE disent être payés toujours en retard par la banque Ecobank, soit plus de 65 jours après l'échéance, et cela avec beaucoup de difficultés. Mabanza Zouzoubi est le porte-parole de ces enseignants.
Ça fait aujourd'hui 2 mois. Nous ne sommes pas en possession de notre salaire. Quand on appelle les gens de l'Ecobank, ils ne nous répondent rien. Nous demandons au ministre national de l'EPST et le directeur du Secopé national de trouver une solution, de nous faire quitter l'Ecobank, de nous ramener à la Tembe. Et deuxièmement, nous demandons à l'agent père de l'Ecobank dès demain de nous payer les 2 mois de salaire. Quand ils viennent avec 1 mois, nous ne serons pas satisfaits. On est des pères de famille. Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes venus ici parler encore à l'OCAPI, déclarer nos droits.
Nos efforts pour avoir la réaction de la banque incriminée sont restés vains. Irène Mboma, Bandunduville, Radio OCAPI.
Actualité internationale.
Au Nigeria, le décompte des résultats pour les élections générales tarde ce mardi alors que le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, est en tête selon les résultats partiels. Les partis d'opposition des deux autres principaux candidats réclament d'ores et déjà l'annulation pure et simple du scrutin organisé au pays le 25 février et la démission du président de la commission électorale. Pékin est la destination diplomatique à la mode ces jours-ci. La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen pourraient s'y rendre dans les tout prochains jours. Et avant eux, le président biélorusse est attendu ce mardi, suivi du président français Emmanuel Macron au début du mois d'avril prochain. En toile de fond, le conflit en Ukraine et la position de la Chine dans ce dossier. En Turquie, trois semaines après le violent séisme qui a tué plus de 50 000 personnes, et en Syrie, des milliers de survivants restent actuellement traumatisés. Le ministère turc de la famille a envoyé aujourd'hui plus de 3700 travailleurs sociaux pour prendre en charge ces sinistrés, notamment des enfants sur place. Des professeurs tentent de les changer les idées.
L'invité.
Notre invité, c'est le président du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Corneille Nangaa affirme qu'il présentera en décembre prochain des candidats aux élections organisées en RDC, y compris la présidentielle. Il s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Corneille Nangaa, Yobelou, bonjour.
Bonjour.
Candidat déclaré à la prochaine présidentielle, est-ce veut dire que vous croyez, contrairement à d'autres acteurs, qu'il y aura élection en RDC en décembre 2023?
Les élections, il faut regarder les faits. Les faits que nous avons aujourd'hui, c'est que le calendrier a été publié. La date des élections est donc combinée, donc fixée au 20 décembre prochain. Les activités préparatoires y afférentes, comme l'identification et enrôlement des électeurs, est en cours. Faut-il dire par là que nous avons foi que des élections auront lieu? Il faut quand même regarder et comprendre qu'il y a beaucoup de défis importants encore à surmonter. Les défis sécuritaires dans les territoires occupés aujourd'hui. C'est des défis politiques. Certains acteurs clament que non, ils ne sont pas concernés par le processus. Certains ne se reconnaissent pas en termes des composantes comme ayant des délégués à la Commission électorale nationale indépendante. Il y a d'autres qui continuent à penser que toute l'architecture devrait être évaluée en allant même jusqu'à la Cour constitutionnelle. Autant de questions et des défis qui méritent responsabilité et donc évaluation. Et le troisième défi, c'est justement les défis technico-opérationnels. Ça signifie donc qu'il va falloir qu'on déploie d'énormes efforts pour donner la garantie de transparence, pour permettre qu'on trouve un minimum de consensus et que la confiance revienne.
Vous faites allusion aux défis, mais aussi à des critiques acerbes de certaines parties prenantes face aux opérations d'enrôlement qui présagent des élections chaotiques. Êtes-vous de leur avis?
L'enjeu et la finalité d'opération d'identification et enrôlement des électeurs se résume à quelques points, 4 ou 5. C'est la délivrance des cartes d'électeurs, la constitution de ces fichiers, l'impression des listes électorales. Et le quatrième enjeu, qui est très politique, c'est la répartition des sièges. On attend de la CENI la publication des statistiques par centre d'inscription, par entité et leur agrégation au niveau soit des circonscriptions provinces. C'est la base sur laquelle les acteurs peuvent avoir la garantie que l'opération se déroule très bien. Une élection est une opération de précision.
La République démocratique du Congo compte des centaines de partis politiques. Nous sommes maintenant dans l'actualité d'aujourd'hui. Y a-t-il encore opportunité d'en créer et pourquoi?
Le parti que nous on a créé est un parti vrai. Il ne sera pas un parti mallette. Le moyen par excellence par lequel je peux agir, c'est avoir un véhicule politique, c'est-à-dire un parti. Nous avons donc à ce jour créé un parti qui s'appelle Action pour la dignité du Congo et de son peuple.
Et vous allez aligner les candidats à tous les niveaux?
C'est très clair. Notre parti va aligner les candidatures à tous les niveaux des scrutins. L'offre à question vient d'être présentée et s'intitule « D'un État défaillant à un État moderne, espace d'opportunité et de libre-échange ».
Là, vous êtes dans la vision pour le développement du pays.
Nous voulons faire du Congo un business land. Notre premier objectif, c'est la refondation de l'État basée sur la réhabilitation des 4 fonctions régaliennes de tout État normal, l'armée, la police, l'administration et enfin la justice. Deuxième axe, on doit faire du Congo une zone de libre-échange. Il nous faut donc une politique de développement infrastructurel conséquente. Notre croix en X, c'est-à-dire que nous mettons un linteau multimodal faisant une croix en X avec une autoroute qui partirait de Goma à Kinshasa, alors qu'il y a le deuxième qui partirait de Lubumbashi vers Ndou au nord. On aura relié l'océan Indien à l'océan Atlantique, mais aussi le Maghreb à l'Afrique australe. La dimension sociale. Nous voulons que dans un premier temps, que les Congolais mangent, sans exception. C'est ça aussi la dignité. Et nous avons notre slogan, nous devons démocratiser la nourriture. Et après avoir mangé, qu'on donne la santé, mais au-delà des soins, éduquons nos enfants, mais formons aussi l'homme congolais.
Est-ce que vous avez un bâton magique pour changer les choses? Quelle est la différence que vous avez avec les autres qui ont presque échoué?
Dans notre offre, nous envisageons de mettre en place des projets, des petits projets, des nanoprojets, des micro-projets et des grands projets, en impliquant tout le monde, en mettant surtout sur l'agriculture et la transformation avec toute la chaîne de valeur.
Corneille Nanga Yobelo, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président du tout nouveau parti politique dénommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Corneille Nanga a été interviewé ici à Kinshasa par Jean-Désiré Kanyama. Et c'est la fin de cette édition d'information supervisée par Pele Kipela Mondo.